Les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonjour à tous, il est 10h en temps universel. Le président Donald Trump et la chancelière allemande Angela Merkel vont se rencontrer à la Maison-Blanche aujourd'hui pour leur premier face-à-face. L'enjeu est de taille compte tenu des déclarations du candidat Trump l'an dernier sur l'OTAN et les relations transatlantiques. Gabi Dorsil nous en dit plus.
Les différences sont évidentes. Donald Trump prône l'Amérique d'abord. Angela Merkel défend le libre-échange. Ils n'ont pas toujours dit du bien l'un de l'autre. On se souvient de cette accusation de Donald Trump durant la campagne électorale.
J'étais autrefois un fan de Merkel. Je croyais qu'elle était un leader fantastique. Je pense maintenant que ce qu'elle a fait à l'Allemagne est une disgrâce.
La chancelière non plus n'a pas été tendre en décrivant le décret de Donald Trump sur l'immigration, par exemple. Aujourd'hui, les deux leaders sont obligés de joindre leurs forces pour faire face aux questions les plus urgentes de l'heure, d'où le nouveau ton conciliant de Mme Merkel.
Je suis profondément convaincu que nous avons intérêt à entretenir un partenariat transatlantique fondé sur des valeurs communes. Et c'est vrai, pas seulement pour les Européens. Mes entretiens avec le président Donald Trump se dérouleront dans cet esprit.
Autant donc s'attendre à un temps de compromis aujourd'hui à la Maison-Blanche sur la viabilité de l'OTAN, par exemple, que Trump a qualifié de surannée, et aussi sur le commerce. Néanmoins, les Européens veulent être pris en bloc, alors que Trump privilégie les accords bilatéraux.
Les États-Unis ont renouvelé hier leur condamnation de l'occupation de la Crimée par la Russie et demandé à ce que cette annexion prenne fin immédiatement, a indiqué le porte-parole du département d'État. Péninsule stratégique sur la mer Noire, la Crimée a été annexée par la Russie en mars 2014 après une intervention militaire suivie d'un référendum de rattachement le 16 mars qui a été dénoncé comme illégal par Kiev et les Occidentaux. Des avions de combat israéliens ont attaqué plusieurs cibles en Syrie dans la nuit de jeudi à vendredi et l'un des missiles tirés en représailles a été intercepté, a indiqué l'armée israélienne dans un communiqué. Il s'agit de l'incident le plus sérieux entre les deux pays depuis le début en 2011 du conflit qui ravage la Syrie. Le missile tiré de Syrie a été intercepté au nord de Jérusalem par le système de défense antimissile Arrow, ont indiqué les médias israéliens.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
31 réfugiés somaliens ont péri au large du Yémen lorsque leur embarcation a été visée jeudi par un hélicoptère selon un garde-côte affecté à une zone contrôlée par les militaires houthis. Mohamed Al-Ali a déclaré à Reuters que les réfugiés portaient le document officiel du HCR se rendaient du Yémen au Soudan lorsqu'ils ont été attaqués par un hélicoptère Apache près du détroit de Bab al-Mandeb. Selon un marin qui était à bord du bateau, 80 réfugiés ont été secourus. Aucune information ne permettait dans l'immédiat d'attribuer la responsabilité de la frappe aérienne. Après un mois et demi de suspension, les pourparlers de sortie de crise en RDC ont repris jeudi à Kinshasa sous l'égide de la conférence épiscopale nationale. Les évêques congolais ont exhorté la majorité et opposition à cesser leur marchandage et à travailler à l'application de l'accord de co-gestion du pays et à l'organisation de l'élection présidentielle. Durant ces nouvelles discussions, les évêques comptent déceler toutes les manœuvres dilatoires visant à retarder l'application de l'accord et s'engagent à rétablir désormais les responsabilités de ceux qui seront à la base d'éventuels blocages. De passage à Washington, Jean-Claude Katende, le président de l'ASADO, l'Association africaine des droits de l'homme, pointe du doigt la responsabilité du pouvoir à Kinshasa.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Nous irons donc à la fin de ce journal avec le gouvernement du Soudan du Sud qui est pour une large part responsable de la famine qui sévit dans certaines zones du pays en conflit où le président Salva Kiir continue de piocher dans la rente pétrolière pour acheter des armes, estime un rapport confidentiel des Nations Unies. Les experts de l'ONU chargés de surveiller les sanctions estiment que 97% des revenus du Soudan du Sud proviennent des ventes de pétrole et qu'au moins la moitié du budget va aux achats d'armement. Jean-Roger Billon, on se retrouve dans 5 ans.